Bonjour, je propose juste de commencer en priant. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée, merci parce qu'elle est vivante, elle nous transforme de jour en jour, Seigneur. Aide-nous ce matin à bien la comprendre et aide-nous à la mettre en pratique aussi dans les jours qui viennent. Amen. Alors je continue le parcours que je vous avais proposé, que j'avais commencé donc il y a quelques semaines sur le Sermon sur la montagne. Alors c'est un texte aujourd'hui donc qui aurait, si Farah avait été là, donc c'est un thème qui rejoint un peu son baptême, qui parle un peu de comment vivre en tant que chrétien, comment on s'engage dans cette vie, qu'est-ce qui est attendu de nous. Mais rassurez-vous, si vous êtes chrétien depuis des années ou des décennies, le Sermon sur la montagne est un enseignement de Jésus à ses disciples dans lequel je suis sûr chacun trouvera toujours de belles choses. Nous sommes chacun en marche et nous avons tous besoin de grandir. Alors la dernière fois avec vous, j'avais abordé donc les béatitudes. Donc c'est cette description d'attitude, de discipline que Jésus enseigne à ses disciples. Et le disciple, le ou la disciple à ce moment-là est décrit comme celui qui se reconnaît spirituellement pauvre, qui se repent, qui pleure à cause de ses fautes, qui demande pardon avec humilité, qui désire la justice de Dieu pour lui-même et pour les autres. Le disciple, c'est celui qui veut répandre l'amour, la bonté et la paix de Dieu autour de lui. Et le disciple sait qu'il dérangera, qu'il sera moqué, qu'il devra souffrir à cause de cette vie différente qu'il est appelé à mener. Mais il faut cependant noter dans ce passage que tout n'est pas noir, même si cela ne s'annonce pas facile, cette attitude demandée aux disciples s'accompagne de promesses et de récompenses. Alors aujourd'hui, on va donc lire les versets suivants, qui viennent donc comme une conclusion à ces béatitudes, mais je vais les relire en entier, donc à partir du verset 1 dans Matthieu chapitre 5, mais donc nous intéresserons particulièrement aux versets 13 à 16. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. À première lecture, ce passage peut sembler fou. Cela ressemble à une mission impossible. Un si petit groupe, appelé à avoir un impact sur la terre entière. Sur tout le monde, sur le monde entier, sur tous les hommes, sur le monde entier. Un tel écart, une telle différence entre ces quelques personnes rassemblées autour de Jésus sur cette colline et l'immensité du monde. Comme on l'avait vu la dernière fois, Jésus est en train de parler à ses disciples, ceux qui ont fait le choix de le suivre. Et là, Jésus insiste. Il s'adresse à ceux qui vivent les béatitudes qu'il vient d'exposer. Il parle à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui sont humbles, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui témoignent de la bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui répandent autour d'eux la paix, ceux qui sont opprimés pour la justice. C'est à eux et maintenant à nous, si nous voulons en être, que Jésus s'adresse. Alors avant d'aller plus loin, juste deux remarques sur l'expression « vous êtes ». Quand Jésus dit « vous êtes », il dit « vous » dans le sens « il n'y a que vous ». C'est de vous dont le monde a besoin. Seul vous pouvez apporter cela, personne d'autre. Et puis « vous êtes » est au présent. C'est en vivant les béatitudes que nous sommes, que nous pouvons être ce, que nous sommes ce sel et cette lumière sur terre. Le projet de Dieu pour son peuple, c'est qu'il soit ce sel et cette lumière. Alors intéressons-nous d'abord au sel. Il y a deux aspects principaux dans l'image du sel. Le goût et la conversation. Et la conservation. Deux exemples culinaires associés à ces images. On a la joie d'avoir une petite fille et on lui donne des pommes et on cuisine des légumes pour elle, mais pour elle, c'est sans sel. En tout cas, au début. Maintenant, on a pitié d'elle. On lui donne un petit peu de sel, justement, pour rehausser le goût de ses pots. Puis, sujet de la conservation, ici, dans le sud, vous le connaissez, pour les olives, on les met en saumure, dans une eau salée, ou alors, plus dans le nord, il y a la salaison des viandes ou des poissons. C'est ces deux aspects-là du sel, le goût et la conservation. Alors si on relit le verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » On voit ici dans le verset 13 que la question n'est pas d'être le sel de la terre ou ne pas l'être. La question est quelle saveur, quel pouvoir salant avons-nous ? Sommes-nous du sel de bonne qualité ou du sel juste bon à être jeté et piétiné? Revenons sur les pouvoirs du sel, le sel qui conserve, qui préserve. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous? De quoi devons-nous préserver la terre? Que nous en dit en fait le début de l'enseignement de Jésus? Nous sommes appelés à être artisans de justice au verset 6, de paix au verset 9, à témoigner de la bonté également. Préserver le monde de l'injustice, de la violence et des conflits. Préserver le monde de la méchanceté. Le sel, pour accomplir son œuvre de conservation, est une substance active. Il pénètre à l'intérieur de la viande. Nous, chrétiens, individuellement, l'Église collectivement, nous usons parfois de la facilité qui consiste à pointer du doigt ce qui ne va pas dans le monde. Faire comme si on était simplement spectateur, critiquer, mais nous sommes invités comme le sel à pénétrer dans notre société pour y ralentir la pourriture. Et nous sommes également invités à nous impliquer dans notre société pour y donner du goût. Quel goût ? Un goût de vie, là où règne la mort, un goût de justice, de paix et d'amour. C'est ce goût-là qui fait défaut à notre société. Et nous sommes appelés à en être les porteurs. Personne ne vous dira que du sel seul a bon goût. C'est toujours ce qu'il touche qui est amélioré. Dans son action, lui-même, le sel n'y gagne rien. Le sel se donne, se transforme. C'est au contact que le sel change les choses. De la même manière, en étant au contact avec nos proches, que nous pourrons leur apporter du goût. Les propos de Jésus, comme on l'a lu, contiennent cependant un avertissement important. Le sel peut perdre sa saveur, perdre son pouvoir salant, devenir inutile. Le chrétien aussi peut devenir inutile, fade. Un chrétien, par exemple, qui ne ferait que parler ou expliquer quoi faire, mais qui n'agirait pas selon ce qu'il dit. Un chrétien qui sait tout, mais ne fait rien. Alors comment être ce sel de la terre? Plusieurs pistes s'offrent à nous. Déjà, ça peut être en église, collectivement, chacun, individuellement. Nous sommes appelés à prendre soin des plus faibles, à œuvrer pour la justice, pour la paix, à faire preuve d'amour auprès de ceux qui sont placés sur notre route. Être sel de la terre, c'est s'impliquer, pas seulement dénoncer, encourager, mais agir. Le sel s'implique tout en restant humble. On ne le voit plus, on ressent ses effets. À chacun de voir, de saisir quelle influence il peut avoir dans son travail, dans son club de randonnée ou de photo, auprès de sa famille, de ses proches, auprès de ses amis, apporter du goût, de la saveur, là où elle n'est plus. Après le sel, Jésus nous parle de lumière. Je vais relire les trois versets, 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Le sel permet de lutter contre la dégradation, d'apporter de la saveur dans un endroit fade. La lumière, elle, apporte clarté et réconfort. La lumière d'un phare permet à un bateau de naviguer, de trouver son chemin vers le port. Les lumières des villes, la nuit, permettaient aux pionniers de l'aéropostale de suivre leur plan de vol, d'arriver à destination. Pour moi, quand je lis ce verset « Vous êtes la lumière du monde », ça me renvoie à ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, où Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » On peut également penser à la nuée de feu qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. La lumière, c'est l'image de la révélation de Dieu qui guide le croyant. Au travers de cette image, Jésus affirme être celui qui révèle Dieu, celui qui guide les croyants vers son Père. Et là, cette image, il l'applique pour ses disciples, pour ceux prêts à suivre son enseignement, pour ceux prêts à vivre une vie radicalement différente. Le disciple de Christ est appelé à être visible dans le monde. De quelle manière? Au travers du bien que l'on fait. Hier, lors d'une conférence à l'Hôtel de Ville de Paris, organisée par la Fédération protestante de France, le prix Nobel de la paix de l'an dernier, Denis Mukwege, expliquait que sa vocation auprès des femmes victimes de viols au Congo était ancrée dans sa foi. Enfant, il disait à son père, « Toi, papa pasteur, tu prieras, et moi, je serai médecin pour soigner les malades. » Le disciple de Christ est appelé à être visible dans le monde. Jésus souhaite que les femmes et hommes décrits dans les Béatitudes soient riches en bonnes œuvres. Il souhaite que ses disciples fassent du bien et que cela se voie. La dernière fois, on avait parlé de défendre la justice, d'être artisan de paix, de faire preuve de miséricorde, de bonté, d'amour, de vivre dans l'humilité et la compassion. Ce sont de ces œuvres dont il est question ici. Et il ne s'agit pas que tout cela soit visible pour que l'on passe pour des gens bien. Ces œuvres ne proviennent pas de nous. Il serait trop prétentieux de penser cela. Disciples de Christ, l'Esprit Saint est en nous et nous amène à grandir dans notre ressemblance à Christ. C'est lui seul qui est la source de ce bien que nous pouvons faire. Il s'agit donc de mettre en valeur celui qui permet cela, qui en est l'instigateur, la source. Celui qui est la lumière du monde. Remplis de l'Esprit de Dieu, nous grandissons pour ressembler plus à Jésus-Christ. Le danger que Jésus soulève pour ses disciples, ce n'est pas l'absence d'œuvres bonnes, mais de ne pas les laisser voir. Une lampe cachée sous un seau est inutile. Elle ne se voit plus, elle ne guide plus. Transposé dans nos vies, qu'est-ce que cela peut être concrètement ? S'enfermer dans un entre-soi de chrétiens, couper nos relations avec notre société. Lorsque nos relations, nos amitiés, nos activités ne nous laissent qu'entre chrétiens, comment pouvons-nous être lumière du monde? Comment être ceux par qui nos compatriotes verront Dieu? Notre rôle sur terre est important, même si le monde n'en a pas conscience. C'est au travers de nous, de ses disciples, de son Église, que Dieu souhaite apporter son message d'espérance, de pardon et de salut. Les chrétiens sont appelés à montrer leur vie transformée suite à leur conversion, à montrer combien le pardon et la grâce de Dieu changent la donne. Avant de conclure, pour en rester un petit peu sur l'image de la lampe, n'oublions pas non plus que toute lampe, qu'elle soit à huile, à pétrole, électrique, solaire, a besoin d'alimentation, a besoin d'une source d'énergie. Puisons-la auprès de celui qui est la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage, en conclusion des Béatitudes, nous rappelle que nous sommes sauvés pour quelque chose. Nous ne sommes pas simplement en attente d'une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Nous ne sommes pas simplement en attente du retour de Jésus. Nous sommes sauvés pour être sel et lumière auprès de nos amis, familles, collègues. Pour être ceux qui agissent dans notre monde, ici ou plus loin, pour apporter justice, paix, miséricorde, bonté. Nous sommes sauvés pour être ceux qui sont témoins de Jésus, du prix qu'il a payé pour nous racheter. Paul écrit à Tite ceci, « Jésus s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » Transformés par son esprit, nous pouvons être ses poteaux indicateurs vers Dieu. Que nos œuvres bonnes soient visibles et permettent que des regards se tournent vers Dieu. Que dans notre vie, quelque activité que l'on ait, nous puissions être des témoins fidèles de notre Sauveur. Mais ce texte me renvoie aussi aux fois où j'ai manqué de saveur, où j'ai caché ma lumière sous un seau. Je ne peux que demander pardon, demander secours et assistance pour les fois à venir. Mais j'ai confiance que par sa grâce, il me transformera. Amen.